minutes d'infos choisies
chaque vendredi sur Radio Galère 88.4.
Le monde tel qu'on le connaissait s'écroule. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
Bonjour.
Salut. Alors on est vendredi, il est midi 31 et on est parti ensemble sur Radio Galère 88.4 pour une demi-heure d'infos choisies. Alors on est trois aujourd'hui en studio et à la technique. On a Anagram, on a
Monitoring
et Paggy. Voilà, et on est rediffusé le lundi matin à 7h30 sur Radio Galère. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent ce lundi matin, eh bien bonjour. Et on est rediffusé en direct sur Radio Aioli. Salut Avignon.
Eh bien, parfois on cherche des lieux sympas pour aller manger ou boire un verre. On ne se rend pas compte du leurre de certains lieux malgré leur joli décor, l'agréable accueil ou encore devant les belles assiettes. Ça fait un moment qu'on sait par exemple que du côté de chez Nour d'Égypte, on a des infos par-ci, par-là. L'agression d'un salarié avec des propos homophobes ou un autre au couteau, des salaires au rabais et une exploitation infinie pour les serveuses du salon de thé Baladi. Ou encore le mensonge qui voudrait nous faire croire à une entreprise familiale et chaleureuse. Cette semaine, nous n'avons donc pas été surprises d'apprendre que le patron et son associé sont mis en examen pour blanchiment d'argent et travail dissimulé, le tout en bande organisée. La liste des chefs d'accusation pourrait vite s'allonger. On est maintenant au courant. Il y a un article qu'on peut retrouver sur France 3 Région. On le sait pour Nour et son patron. On se rappelle que Nour d'Égypte, c'est rue Bernex. Et puis à quelques mètres plus haut, c'est le salon de thé Baladi. Et puis le souk, rue de Rome. Tout ça, ça appartient au même patron et à son associé. On sait aussi que certaines pratiques sont similaires dans d'autres bars et restos du centre-ville. Comme par exemple, filer une partie du salaire en liquide, non déclaré donc, en faisant une combine pour que ce soit complété par Pôle emploi. Ce qui peut donner un taux horaire de 4,50€ de l'heure. Parfois on sait, mais souvent on l'ignore ou on fait semblant. Alors avant de s'asseoir à une terrasse, on pourrait se demander à quel type de raclure on file sa thune et quel fonctionnement on soutient. Ou encore se demander si l'apparence cool et chouette colle vraiment à la réalité. Aujourd'hui, aux infos choisies, on va parler de mobilisation des AED et de leur dernier rendez-vous qui a eu lieu hier, et aussi de la grève dans le secteur de l'hôtellerie et du nettoyage. On abordera aussi des questions de violence policière et de mort aux frontières avec des murs. On fera aussi un petit tour du côté d'EDF et de leurs mensonges sur les conditions de travail. Et comme d'habitude, on finira par un agenda. Bonne écoute.
Bah super. On commence avec la mobilisation des AED hier.
Ouais. Alors depuis la fin de la première vague du Covid, les AED à Marseille et au niveau national se mobilisent pour leurs conditions de travail et aussi pour la contractualisation des AED, parce qu'on rappelle que c'est des contrats qui se renouvellent tous les ans, chaque année, et que plutôt les personnes sont précaires. C'est des salaires qui sont payés au SMIC, même s'il y a les vacances scolaires, ça fait quand même pas beaucoup. Depuis quelques semaines et quelques mois, la menace qui sert d'épée Damoclès sur les AED grévistes, ce serait qu'ils ne soient pas renouvelés l'année prochaine dans certains établissements parce que cette année, elles auraient fait grève. Hier matin, il y a eu un piquet de grève devant le lycée Victor Hugo. On rappelle que le lycée Victor Hugo, c'est le lycée qui est derrière la gare Saint-Charles, pas très loin de la fac. Et plusieurs AED de plusieurs établissements de Marseille étaient au rendez-vous. Un bout d'équipe, en tout cas une petite délégation, a été reçue aussi à l'inspection académique pour le moment. On ne sait pas trop ce que ça a donné, mais ça fait un moment qu'aux infos choisies, on suit cette mobilisation et continuera à vous donner des nouvelles. Et maintenant, on va s'écouter un son qui nous a été envoyé justement sur d'autres mobilisations dans le secteur du nettoyage et des grèves dans l'hôtellerie.
Les salaires, les salaires, les salaires,
y a des luttes en cours dans le secteur du nettoyage à Marseille et on va en parler maintenant. Les agentes de nettoyage à l'ARS, Agence régionale de santé PACA, en grève depuis le 29 mars, ont obtenu une première victoire. Après presque 80 jours de lutte, les grévistes ont obtenu que leur employeur, le sous-traitant Laser, soit écarté du marché. L'ARS a accepté de résilier le contrat qui la lie à cette société et à la centrale des marchés publics UGAP. C'est un préavis de 3 mois, donc les salariés vont rester en grève encore tout l'été, jusqu'à la reprise par un autre sous-traitant. IEL vont rester mobilisés jusqu'à l'obtention auprès de l'ARS et de son futur prestataire de toutes les garanties revendiquées par les grévistes. Reprise intégrale de l'équipe de nettoyage, annulant mutations et sanctions et la baisse de la surcharge de travail. Mais comme l'a fait remarquer Sylvie Kimissa, une ancienne gréviste de la lutte de 22 mois à l'hôtel Ibis Batignolles, venue spécialement de Paris pour apporter son soutien aux grévistes samedi 11 juin, la lutte contre la sous-traitance est centrale et les grévistes devraient revendiquer l'internalisation au sein de l'ARS. Bon, malgré tout, la lutte continue. Le piquet de grève devient hebdomadaire et aura lieu tous les mardis de 16h à 18h. Prochain rendez-vous mardi 21 juin pour fêter cette première victoire devant l'ARS PACA, 132 boulevard de Paris à la Joliette, à Marseille. La caisse de grève en ligne est toujours d'actualité. Vous pouvez retrouver le lien sur le site cnt-so.org. Une autre grève a commencé depuis le 26 mai. Des salariés du groupe Louvre Hôtel sont en grève reconductible. Louvre Hôtel, c'est le deuxième groupe hôtelier mondial, regroupant notamment les hôtels Golden Tulip, Campanile, Kyriad, Première Classe. La grève concerne 4 hôtels, dont le Golden Tulip Villa Massalia dans le 8e arrondissement à Marseille, avec 30 grévistes sur 70 salariés. Les 3 autres hôtels en grève sont en région parisienne, à Gennevilliers et au Pont de Suresnes. Selon Tiziri Kandi, responsable du syndicat CGT-HPE qui accompagne les grévistes, ces 4 hôtels sont des gros porteurs, pas des petits hôtels. Plusieurs d'entre eux ont une tradition de lutte avec des mobilisations successives qui ont mis fin à la sous-traitance. Au Villa Massalia à Marseille, ce sont des femmes de chambre, de ménage, mais aussi des cuisiniers, serveurs ou même maîtres d'hôtel qui se mobilisent pour demander de meilleures conditions de travail. Une augmentation de 300 euros par mois et la mise en place d'une prime d'ancienneté mensuelle. Les grévistes insistent aussi sur une mesure spécifique pour les salariés qui n'ont pas pu aller rendre visite à leur famille depuis 3 ans avec le Covid et demandent qu'elles aient 4 semaines de congés payés consécutifs. Pour les soutenir, il y a aussi une caisse de grève en ligne sur papayou-solidarité.com.
Ben, merci pour ce beau son et on continue les infos choisies avec les frontières. Alors pourquoi on vous parle pas mal de frontières dans les infos choisies et aujourd'hui on avait envie de raconter que la Slovénie va retirer sa clôture qui vise à empêcher les personnes à traverser à la frontière croate. Donc ça, c'était mercredi dernier que le Premier ministre slovène a annoncé la destruction de la clôture. C'est plus de 200 km de barbelés, du coup, qui sont construits sur quasiment un tiers de la frontière entre la Croatie et la Slovénie. Alors, pourquoi le Premier ministre a annoncé ça ? En fait, il s'est rendu compte que les barbelés n'empêchent pas les personnes de traverser et que, en fait, il y a beaucoup de gens qui choisissent d'autres voies de passage hyper dangereuses, comme par exemple traverser une rivière à la nage. Voilà, les frontières tuent, ce n'est pas un scoop. Et puis le Premier ministre slovène, il a annoncé aussi des mesures pour améliorer les centres d'accueil de demandeurs d'asile et accélérer les procédures de traitement des dossiers, notamment déposés par des personnes qui ont traversé la Méditerranée. Alors bien sûr, la destruction des barbelés, ça ne veut pas dire l'ouverture de la frontière, ni la fin des contrôles, ni la fin des déportations, etc. Ça ne veut pas dire que la frontière slovéno-croate, elle va s'arrêter de tuer. Mais quand même, on avait envie d'en parler parce que ces annonces, elles dénotent vraiment avec les mesures mises en place dans plusieurs pays de l'Union européenne ces dernières années, qui au contraire renforcent à fond la construction de kilomètres et de kilomètres de murs et de barbelés. Il y en a plus de 10 murs et barbelés dans l'Union européenne. Et puis aussi parce que entendre ça, ça fait un peu du bien après que la Grèce a annoncé il y a quelques semaines le prolongement du mur à la frontière terrestre avec la Turquie. Voilà, on espère et on continue à lutter bientôt pour une annonce sur l'ouverture des frontières. On perd pas espoir.
Alors du coup, maintenant, on va vous donner une nouvelle du côté de la frontière italo-française, des nouvelles plutôt mortifères. Il y a eu le meurtre d'une personne en transit par un agent de la police des frontières françaises. Dans la nuit du 14 au 15 juin cette semaine, une personne de 35 ans a été tuée d'une balle dans la tête par un agent de la PAF. La PAF, on rappelle que c'est la police aux frontières françaises. Une camionnette transportant 8 personnes a franchi la frontière franco-italienne vers 2h du matin. Parmi ces personnes, certaines n'avaient pas ce que la police considère comme les bons papiers. La PAF a poursuivi la camionnette jusqu'au quartier des Moulins à Nice. Là, un policier a tiré à 4 reprises sur la voiture. Une personne a été touchée à la tête et est décédée à l'hôpital hier, jeudi 16 juin. Il s'agit d'un meurtre policier raciste. Et ce n'est pas un cas isolé. Encore et encore, des personnes sont tuées à la frontière franco-italienne par le régime raciste des frontières. Bien que l'Italie et la France fassent partie de la zone Schengen, il y a des contrôles frontaliers illégaux et racistes continus depuis 2015. Ceux-ci rendent le passage de la frontière difficile pour les personnes racisées dépourvues de ce que la police considère, encore une fois, comme des bons documents. Les gens sont obligés de trouver des moyens détournés pour traverser la frontière, par exemple en se cachant dans des camionnettes ou à pied via des itinéraires dangereux, parfois mortels, comme la montagne, des tunnels, des rails, etc. Il ne s'agit pas d'un accident, mais d'un meurtre policier raciste qui ne peut rester sans réponse.
Et on avait envie de relayer un appel à dons pour cet été, parce que cet été, il a lieu le Transborder Camp. Alors c'est un événement qui rassemble plusieurs collectifs et associations non institutionnelles de nombreux pays d'Europe et d'Afrique qui luttent pour le droit de circulation et d'installation tout au long des routes de passage des personnes en exil. Et donc il y a déjà eu un Transborder Camp en 2012, un autre en 2019. Et donc là, cette année, il y en a un nouveau. Et depuis Marseille, il y a toute une organisation qui est mise en place pour organiser les trajets et favoriser au maximum la venue de personnes des collectifs qui sont directement concernés par les questions de migration et de discrimination et qui ont un accès limité à la mobilité. Voilà, du coup, c'est possible de contribuer à cet appel à dons et donc de filer de l'argent sur la plateforme Papayou Solidarité. Et voilà, pour vous donner une idée, les trajets, ça coûte entre 70 et 100 euros aller-retour par personne. Et puis, le collectif aussi cherche des véhicules et notamment des minibus. Du coup, si vous avez ça, eh ben, n'hésitez pas à écrire un mail à collectifsoutienmigrante13@riseup.net.
على باب المسجد المكسور ما في قدامك طاغوت إلا ينحني إلا ينحني وعدي ليك شو ما صار لو سكر ورح أفوت والله الملايين أنا زيي إلا ما نيجي وحنفوت كل ما الصور
يا ابني القدس ويا بنتها النجمة وقفت للدار والله علي النعمة تضوي وتشيل الحاجز ترى حكمه بخصوصك عاجز يلي ينده عليك الشاطئ وعليه واحلف اني منسى الدار يا حامية صار لو سكر وراح افوت والله الملايين انا زيي الا ما نيجي وحنفوت كل ما الصوت يعلي يا ابن القدس ويا بنتها النجمة وقفت للدار والله علي النعمة تدوي وتشيل الحاجز ترى حكمه بخصوصك عاجز يلي ينده عليك شاطئ واحلف اني منسى الدار يا حامية.
Vous êtes toujours dans les infos choisies et on vient d'écouter une musique.
Shirin, c'est en hommage à la journaliste d'Al Jazeera qui a été tuée il y a quelques semaines par l'armée israélienne.
Et on continue ces infos avec les mythos d'EDF et c'est pas joli joli. Il y a une enquête qui vient d'être ouverte contre EDF suite à la plainte d'un employé de la centrale de Tricastin. C'est la centrale qui est dans la Drôme. C'est une des plus vieilles centrales nucléaires françaises. Et donc, cette enquête, elle est ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui, non-déclaration d'incident, obstacle au contrôle des inspecteurs de sûreté, altération de la vérité et faux en écriture. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Alors d'abord, c'est que EDF trouve ça malin de ne pas déclarer les incidents de sécurité qui ont eu lieu à la centrale de Tricastin ou de les déclarer avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Par exemple, en juin 2017, eh bien, un des réacteurs de la centrale a fonctionné au-delà de la puissance maximale autorisée pendant plus de 45 minutes et ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Et EDF a déclaré l'incident au bout de 6 semaines. En août 2018, il y a une inondation dans le sous-sol de la centrale, 2 jours avant une visite d'un inspecteur de l'autorité de sûreté nucléaire. Alors ça, c'est une autorité qui est censée être indépendante et qui est censée contrôler ce qui se passe dans les centrales nucléaires. Et du coup, l'inspecteur de cette autorité de sûreté là a fait un rapport en disant « Incident détecté à 9h15 et puis immédiatement arrêté ». Sauf que, en fait, vient de paraître un document interne à la centrale qui mentionne que 24 heures après la découverte de l'inondation, eh ben, le problème n'était toujours pas réglé. Alors, c'est une enquête contre EDF, mais ça implique aussi cette autorité de sûreté nucléaire, puisque c'est aussi une autorité de sûreté qui est censée donc surveiller les questions de sécurité de la filière nucléaire et aussi de faire office d'inspection du travail. Et là aussi, le salarié qui porte plainte raconte que, en cas de maladie professionnelle, eh ben, les salariés sont invités à rester chez eux, enfin invités avec des guillemets, sans déclaration à la médecine du travail. Comme ça, c'est EDF qui paye et c'est ni vu ni connu. Il raconte même que, à certains moments, la direction de la centrale fait pression sur les médecins pour modifier l'ordonnance d'arrêt maladie. Voilà, de quoi nous rassurer.
Eh ben, on va passer à l'agenda.
Il est bien dodu, cet agenda.
Ouais. Il y a un premier rendez-vous cet après-midi à 16h. Il y a un rassemblement pour la défense des droits des mineurs non accompagnés devant le tribunal d'instance. C'est place Montyon, dans le 6e arrondissement, à l'appel de plusieurs associations. Moi, je peux les donner. RESF, LDH, Asso Saint-Just, Ramina, Collectif 113, Collectif Mi-13, la CIMAD, Sud-Éduc 13 et SAF 13.
Et ce soir, à 20h, il y a une conférence gesticulée « J'aurais dû m'appeler Aïcha ou l'identité française en question » par Nadège Devaux. Et ça se passe au comptoir de la Victorine. Donc ça, c'est dans le 3e, 29 rue Toussaint. Un mois avant ma naissance, la mère de mon père décède. La tradition veut que la première fille née après ce décès hérite du prénom de la défunte. Ma grand-mère s'appelait Aïcha, elle était algérienne. Pourtant, je m'appelle Nadège. Voilà, c'est ce soir à 20h.
Et demain, samedi 18 juin, dès 20h, Karaokalme. C'est un karaoké autotuné en soutien au Mamba. Ça se passe à la DAR, au centre social qui est un centre social autogéré, 127 rue d'Aubagne. Et c'est en soutien au collectif Soutien Migrant 13, El Mamba. À cause de soucis de voisinage, les festivités s'arrêtent à minuit et demi, donc soyez à l'heure. L'entrée est à prix libre. On rappelle qu'El Mamba est un collectif no border qui lutte contre les oppressions vécues par les personnes exilées en Europe. C'est un collectif de lutte contre les politiques sécuritaires, anti-migratoires et racistes qui ciblent des personnes migrantes et qui s'organisent collectivement pour agir, entre autres par des manifestations, occupations, réquisitions, plaintes juridiques, collectives, etc., etc.
Et alors, on passe aux infos qui intéressent celles et ceux qui nous écoutent lundi matin aussi. Donc, lundi 20 juin à 19h, à Manifested, il y a une présentation du livre de Florent Gabaron-Garcia, Histoire populaire de la psychanalyse. Parce que qui a dit que la psychanalyse devait se tenir à l'écart de la politique? Certainement pas l'auteur. Donc, c'est un psychanalyste et psychologue qui s'est notamment formé à la clinique de la Borde et du coup, qui démonte l'idée qu'il existe une psychanalyse neutre. Voilà. Et donc, dans son histoire populaire de la psychanalyse, il raconte un peu comment cette discipline s'est rangée du côté des classes populaires et comment la psychanalyse a pu participer à des luttes pour l'émancipation et contre les inégalités sociales. Donc, c'est à Manifestaine, au 59 rue Thiers, à Marseille.
C'est encore à toi.
C'est encore à moi. Mercredi, cette fois-ci, à 18h30, il y a une rencontre avec Alice Romerio pour parler militantisme et professionnalisation au planning. Donc, ça se passe au 106 Boulevard National. Et l'idée, c'est de discuter avec Alice Romerio autour de son livre « Le travail féministe, le militantisme au planning familial à l'épreuve de sa professionnalisation ». Voilà, donc Alice Romerio, elle est docteure en sciences politiques, elle fait des recherches sur les conséquences de l'endométriose sur la vie professionnelle, et du coup l'idée de la rencontre là, c'est de réfléchir aux effets de la professionnalisation d'une association militante sur sa politisation. Avec plein de questions, l'institutionnalisation entraîne-t-elle nécessairement une diminution de l'implication militante? La présence de bénévoles dans une association professionnalisée a-t-elle un impact sur le militantisme de cette association? Quelles sont les trajectoires professionnelles des salariés et bénévoles du planning familial? Et que nous apprennent-elles sur le travail féministe? C'est à 18h30, mercredi.
Et jeudi 23 juin à 19h, à la librairie Transit qui se situe au 51 boulevard de la Libération dans le 1er arrondissement, il y a une rencontre avec Hamid Mokadem. Littérature et politique en contexte colonial et ou postcolonial océanien. Les régimes coloniaux ou post-coloniaux des archipels océaniens ont des incidences sur les productions culturelles comme l'écriture. En Kanaky, Nouvelle-Calédonie, l'administration Macron, outre le déni de la souveraineté du peuple kanak, sous couvert des règles de démocratie formelle, ne propose aucune issue possible. Que peut la littérature et quelles attitudes les écrivains ont-ils face à cet horizon bouché ? Voilà pour l'agenda de cette semaine et des jours à venir.
Voilà, bah, c'est la fin des infos choisies.
On se retrouve la semaine prochaine.
Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous réécouter en podcast sur le site de Radio Galère. Et merci à la technique.
Les infos choisies, c'est fini bon week-end. Pour aujourd'hui.
Bon week-end.
Retrouvez-nous sur radiogalère.org. Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.